grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le Centre FM, embarquez avec nous à bord de l'Optimiste, votre petit bateau favori qui vous emmène voguer tous les jours sur les ondes de l'information locale pendant à peu près 30 minutes. Au programme ce soir, une interview d'Arnaud Levoyer de l'association Olivier Girand qui accompagne les familles des détenus. Ils sont installés à proximité de la maison d'arrêt d'Angers et nous reviendrons ensemble sur les conditions d'incarcération des détenus, la création de ce nouveau complexe carcéral à Angers et bien sûr sur l'accompagnement psychologique et humain prodigué aux familles de détenus. Mais tout de suite, c'est la chronique du planning familial avec Chloé. Ajustez vos gilets de sauvetage, vous êtes bien à bord de l'Optimiste, c'est parti. Salut Chloé.
Salut.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de mansplaining.
Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler du mansplaining et de ce que cela implique. Donc c'est une notion qui peut ne pas être évidente pour un bon nombre de personnes. Donc on va d'abord expliquer ce que c'est et ensuite les implications que ça peut avoir. Donc, si on suit la définition de Wikipédia, on trouve ceci. On nous indique que le mansplaining est un concept féministe construit avec les mots man, donc homme, et explaining, expliquer ou explication. Ce que mansplaining veut dire est le fait qu'un homme explique quelque chose à une personne perçue comme femme qui, elle, sait déjà, voir un sujet sur lequel il est experte. On trouve en français également le terme « m'expliquer ». Donc le mansplaining, c'est un terme qui est né en 2008 suite à la publication d'un article écrit par Rebecca Solnit sous le titre « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Cet article est assez parlant quand on parle de mansplaining car ça nous donne un exemple concret. En effet, un homme a voulu expliquer à l'autrice le sens d'un livre qu'elle a elle-même écrit. Donc on peut facilement supposer que c'est une experte sur le sujet. C'est un exemple très parlant de mansplaining. Un homme veut expliquer à une personne perçue comme femme un sujet sur lequel il en sait moins que l'interlocutrice, mais il va quand même refuser de reconnaître qu'il est moins qualifié pour en parler que la personne à laquelle il s'adresse. On peut également retrouver ce type de comportement dans les milieux militants. Un homme s'adresse à une personne concernée en étant lui-même non concerné, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de la lutte, sans prendre en compte la perspective concernée de la personne à laquelle il s'adresse. Donc, pour les personnes perçues comme femmes, ça fait partie de notre quotidien. On a tous déjà vécu cette situation où un homme veut nous expliquer des choses qu'on sait déjà, voire même dans des domaines où on est expert. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'on n'a rien à apprendre ou qu'on est expert sur tous les sujets, même si on est concerné. On a encore à apprendre des autres, heureusement, sinon ce serait quand même bien triste. Mais ce dont on parle aujourd'hui est bien différent. Le mansplaining n'est pas seulement très agaçant quand on le vit, c'est aussi faire peu cas de ce que les personnes perçues comme femmes peuvent savoir. Un homme qui fait du mansplaining va le faire parce qu'il se trouve devant une personne perçue comme femme et qu'il pense, sans doute inconsciemment, pour la plupart du temps, que la personne en sait forcément moins que lui, puisqu'il l'aperçoit comme femme. Cela va souvent de pair avec le mansterrupting, que l'on verra sans doute dans une prochaine chronique, parce que c'est un sujet à part entière. Ça montre encore une fois que l'éducation, parce que ça vient en partie de là, est très différente entre les genres. On sait que les personnes assignées femmes sont éduquées à écouter et à ne pas prendre la parole quand quelqu'un parle, même si c'est pour expliquer quelque chose qu'on sait déjà. Pour terminer, je demanderai aux hommes qui m'écoutent de faire attention à ce genre de choses quand ils s'adressent à des personnes perçues comme femmes. On ne demande pas à rompre toute communication, loin de là, mais seulement d'arrêter ce genre de pratique. Ce n'est pas respectueux, et tout ce qu'on demande, c'est que soit pris en compte le fait que oui, on peut être expert sur des sujets. Voilà, merci d'avoir écouté cette chronique, et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup Chloé pour cette chronique et on se retrouve la semaine prochaine, mais tu viendras accompagner, ce sera une première pour nous deux d'ailleurs, ce seront des jeunes qui ont fait un projet avec le planning familial qui viendront faire leur première chronique.
Oui, et elles sont ravies d'être là.
Super, on a hâte déjà d'être la semaine prochaine. Tout de suite, on accueille Arnaud Levoyer à nos micros et on change complètement de sujet. Arnaud Levoyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le contact presse, le responsable communication de l'association Olivier Girand, une association qui apporte son soutien aux familles de détenus. Vous êtes implanté juste à côté de la maison d'arrêt d'Angers. Et les missions principales que vous voulez défendre au sein de votre association, c'est l'accueil de familles. J'aimerais questionner tout d'abord avec vous quelles sont principalement les missions de cette association. Donc vous me disiez hors antenne que l'important pour vous, c'était de pouvoir permettre d'avoir un lieu de rencontre.
C'est ça. En fait, c'est une association qui a 30 ans. On va fêter cette année ses 30 ans. C'est une association qui comme mission principale de venir soutenir les familles et les proches des détenus de la maison d'arrêt d'Angers. Elle a pour ça trois missions. Une première mission qui a été finalement la première, l'historique, celle d'accueillir juste à côté, sur la place Olivier Girand, de la porte de la prison d'arrêt, de la maison d'arrêt d'Angers, avant les parloirs, ces familles qui venaient des fois d'un peu plus loin, qui étaient souvent démunies et qui, avant que la maison d'accueil n'ouvre il y a 30 ans, eh bien patientaient sur le trottoir, aux yeux de tous, avec un regard souvent hostile des passants. Et il était donc nécessaire de très vite mettre cette maison d'accueil en place.
Il y avait un sentiment de honte qui se dégageait du fait d'aller voir un proche en prison ?
Exactement. Un sentiment de honte, la pluie, le froid, l'attente, parce que l'administration pénitentiaire a évidemment ses rythmes. Et du coup, il y avait du réconfort à donner, il y avait de la protection, il y avait... Et puis aussi beaucoup d'informations sur la manière dont se passent ces rythmes, ces réservations de parloirs, donc tout un travail d'information, de réconfort et de soutien.
C'est une association qui est née d'une concertation, et vous l'écrivez dans votre communiqué de presse, née d'une concertation avec les services techniques de la mairie d'Angers. L'initiative vient de vous ou il y a eu un appel à projet ?
Non, en fait, à l'époque, c'était à la fin des années 80, ça a été simplement la découverte donc de cette grande précarité d'attente des familles et des liens qu'il y avait avec les services techniques de la mairie d'Angers. Et puis, il y avait également des liens avec les visiteurs de prison et une assistante sociale. Et ce petit groupe de démarrage, qui était tout petit, a su taper aux bonnes portes. La mairie a été très sensible à ce besoin de soutien et nous a aidés, nous a mis à disposition ce local qui est là.
Et justement, donc ça c'est en concertation avec la mairie d'Angers, mais je suppose qu'également vous avez travaillé en concertation avec la maison d'arrêt. Quelles sont les relations que vous entretenez avec elle? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Comment est-ce qu'elle vous inclut dans les projets de manière générale?
Alors on a énormément de chance sur Angers, parce que c'est pas forcément la même chose partout, d'avoir d'excellentes relations avec l'administration d'Angers. Aujourd'hui, la direction de la prison et son équipe de cadres est très très proche de nous. On est dans un partage hebdomadaire et à chaque fois que nécessaire, et en particulier avec toute cette période sanitaire très déstabilisée, il a fallu ajuster en permanence beaucoup d'informations, beaucoup d'horaires, la manière de réserver ses parloirs, et on a une excellente et ils nous communiquent leurs besoins et ils nous disent que nous sommes devenus avec le temps, comme d'ailleurs beaucoup d'autres associations qui concourent au soutien de cette maison d'arrêt, absolument indispensable pour, ce qu'ils nous disent, humaniser la prison. Et on le comprend très très bien. On ne peut pas avoir tous les mêmes rôles chacun, et nous on a un rôle, c'est vrai, de soutien.
Vous accueillez, vous, les familles de détenus, mais quelles sont vos relations? Je suppose qu'également vous avez des relations avec les détenus en eux-mêmes. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Comment est-ce que vous faites justement ce lien entre l'intérieur de la prison et l'extérieur de la prison?
Alors en fait, nous n'avons normalement pas de lien avec les détenus, je parle de Olivier Girand, en dehors de ce qu'on appelle le REP, qui est la troisième mission de l'association, qui est la relation enfant-parent, qui accompagne les enfants de parents séparés lorsque la mère, puisqu'il n'y a que des hommes à Angers, à la maison d'arrêt, lorsque la mère ne veut pas revoir le père de l'enfant. Et à ce moment-là, on accompagne l'enfant au parent Loire pour qu'il puisse garder des liens avec son père. Mais c'est notre seul lien avec les détenus. Par contre, on est très en lien avec toutes les autres associations qui ont d'autres missions, dont par exemple les visiteurs de prison, par exemple l'aumônerie, par exemple les petits frères des pauvres, par exemple, enfin beaucoup d'associations qui, eux, travaillent au soutien et réconfort des détenus eux-mêmes.
Vous faites partie d'un groupement angevin qui s'appelle le groupement angevin Concertation Prison, le GACP.
C'est ça.
À l'intérieur de ce groupement, il y a Emmaüs, les petits frères des pauvres. Je vois que vous avez toute la liste sous les yeux. Pourquoi c'est important aussi de travailler avec ce tissu associatif du territoire angevin ?
Alors en fait, ce besoin de soutien global à la fois de l'administration pénitentiaire qui nous dit cette indispensabilité des bénévoles et le besoin que nous connaissons de familles qui sont évidemment dans le désarroi lorsqu'un de leurs proches est emprisonné ou des détenus, on pourra en parler un peu, qui sont dans une très grande précarité et difficulté, voire même difficulté psychologique et psychiatrique, il était indispensable, et on le voit quasiment sur tous les territoires, que toutes ces associations qui sont les mêmes partout en France, à côté des centres pénitentiaires, travaillent de concert ensemble. Parce qu'en fait, tout ce qu'on réalise chacun est très complémentaire les uns des autres. Quand on soutient bien les familles, c'est parce qu'on sait les difficultés que les détenus ont. Quand les détenus, grâce aux liens qu'on a avec les associations qui les soutiennent, connaissent le besoin des familles, tout ça vraiment constitue un champ de soutien, d'humanité, de solidarité qui est très efficace.
L'association Olivier Giron fête ses 30 ans cette année. Au fur et à mesure des années, je suppose que vous avez pu identifier certains besoins très spécifiques des familles de détenus. Si jamais on veut aider l'association Olivier Giron, quelle forme de soutien est-ce qu'on va pouvoir apporter à ces familles de détenus ?
Alors, les soutiens aux familles de détenus directement, on ne peut vraiment les apporter qu'en devenant bénévole au sein de l'association, puisqu'en fait, on imagine assez bien que ces familles ne cherchent pas à... tant elles sont marquées par une certaine honte, un certain désarroi, une très grande tristesse de ne pas voir leurs proches, elles ne cherchent pas à avoir énormément de contacts en dehors de certains thérapeutes, des psychologues par exemple, ou des moments et des liens de confiance qui se créent dans le temps. Elles ne se créent pas immédiatement, on ne leur saute pas dessus pour leur dire voilà, on arrive et on a des solutions. On les accueille, on les écoute. On a tout un travail. Quand on regarde le boulot qu'on fait, c'est l'accueil, l'écoute, le soutien, l'accompagnement très discret, la confidentialité totale. C'est ce qu'elles nous disent reste totalement confidentiel, et de l'information qu'elles nous demandent, parce que quand elles arrivent, elles ne connaissent rien.
Je sens, quand vous nous racontez l'association Olivier Giron, qu'il y a un vrai besoin psychologique et d'accompagnement humain, en fait, derrière ça, et que ce n'est pas forcément du matériel, on n'est pas sur de la distribution alimentaire ou de soutien aux personnes précaires, c'est vraiment un soutien, un accompagnement face au monde de la prison et au monde carcéral.
En tous les cas, pour Olivier Giron, parce que d'autres associations qu'on aide d'ailleurs dans des moments très particuliers ont des actions, par exemple, d'apport de colis, de produits d'hygiène, de gâteaux, de cadeaux de Noël. Autrement dit, il y a des temps forts qui sont à ce moment-là plus directement liés aux détenus eux-mêmes. Et là, oui, il y a des besoins qui peuvent être des besoins matériels.
Chaque année, ce sont près de 30 000 passages de personnes qui sont enregistrées à la maison d'accueil des familles Olivier Giron.
Oui.
Pour porter la voix de toutes ces familles-là, vous avez une émission hebdomadaire sur nos concurrents et néanmoins amis RCF Anjou, à travers votre émission qui s'appelle « Téléphone du dimanche ».
Tout à fait. Cette émission du Téléphone du dimanche, elle est ancienne, puisque, par exemple, sur Angers, elle fêtera justement ses 30 ans et ses 1500 émissions du dimanche, tous les dimanches de l'année. De midi à 13h, nous diffusons sur l'antenne d'RCF qui nous accueille, nous sommes indépendants d'RCF, mais le studio nous accueille pour une heure de diffusion des messages qui sont reçus par téléphone des proches et des parents des détenus et qui sont entendus au sein de la prison sur 88.1 FM par les détenus.
Comment est-ce qu'on peut rendre ça personnel alors que finalement, si moi je suis famille et que je laisse un message à mon mari, à mon frère, à mon fils, comment faire justement la nuance entre la sphère privée et la sphère publique puisque c'est diffusé à l'antenne de tout un chacun? Parce que je suppose qu'au-delà d'un message aux détenus, il y a un vrai message également à l'intention de la population angevine.
Eh bien, tout à fait. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans la grande fragilité, la dimension de confidentialité de la sphère privée s'estompe. Et un peu comme les marins, moi je navigue et en mer, quand on communique en BLU, tous les marins autour entendent ce qu'on peut transmettre à nos proches, et bien c'est exactement pareil. Là, il y a des messages, et je vous encourage d'aller écouter cette émission de midi à 13h tous les dimanches sur 88.1, parce qu'en fait, il y a c'est extrêmement émouvant. Il y a des messages d'amour, il y a des messages d'enfants à leur père, il y a des messages de parents à leur fils. On est des fois ému aux larmes en entendant des messages incroyables qui sont transmis.
Est-ce que c'est une manière aussi de normaliser, de banaliser le milieu carcéral?
Alors,
et en tout cas de permettre de dépasser cette honte que peuvent avoir les familles des détenus?
Alors, de le banaliser, je dirais pas ça, mais par contre, de le rendre plus proche, d'entrer en proximité et du coup, quelque part, en compassion par rapport à cette fragilité et à cette tristesse, à cette épreuve, certainement. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'incroyable que nous vivons, comme paradoxe, c'est que nous sommes dans un environnement d'image de la prison, surtout les JT, les séries, au cinéma, les réseaux sociaux, on est submergé par cet environnement, et à la fois, on en ignore totalement les clés, les rouages, les enjeux. Et du coup, en entendant les familles parler à leurs proches, ce monde de la prison nous devient familier et on comprend finalement tout ce qui se trame par derrière de fragilité, d'épreuves, de souffrance.
Et avant de continuer notre discussion, une petite pause musicale sur les ondes du Centre FM.
De la nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mômes et mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga la légende, les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano. Regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes books, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano.
Il est 18h19 sur les ondes de Radio Campus Angers. C'était Youssoupha avec son morceau Ama Piano. Tout de suite, on continue notre discussion avec Arnaud Levoyer de l'association Olivier Girand qui accompagne les familles de détenus de la maison d'arrêt d'Angers. Il y a un vrai imaginaire autour de la prison. En ce moment, dans l'actualité angevine, résonne cet imaginaire puisque on est en train de voir apparaître sur le territoire angevin une sorte d'énorme complexe carcéral. Aujourd'hui, la maison d'arrêt compte 256 places. Ce gros complexe carcéral lui en comportera 886, donc c'est plus que triplé la taille de la maison d'arrêt. Par ailleurs, qui ne sera plus seulement une maison d'arrêt, mais aussi un centre de détention et une prison pour femmes. Comment est-ce que vous, votre association, alors 30 000 passages, mais 60 bénévoles, ça va, 60 bénévoles. Comment est-ce que l'association va s'adapter face à cette évolution majeure dans le milieu et le milieu carcéral angevin?
Alors vous avez tout à fait raison, vous touchez du doigt un enjeu. C'est probablement notre premier enjeu, au-delà bien sûr de continuer notre mission sur les trois services dont on vient de parler. Notre premier enjeu à terme, c'est d'être capable de maintenir cette qualité de service et d'humanisation aux côtés de l'administration pénitentiaire pour servir cet enjeu-là. On est face d'abord, comme toutes les associations qui œuvrent autour de la prison, en état de sidération. Une sidération de voir que cette maison d'arrêt de 266 places, qui certes est une des plus anciennes prisons de France en activité, elle date de 1856, tout le monde reconnaît, l'administration pénitentiaire française le reconnaît, d'une grande vétusté, d'une dimension indigne de la détention et d'une saturation qui va des fois de 60 à 80% de surpopulation. Donc ça, on voit bien, c'est le cadre, mais au lieu, entre guillemets, de reconstruire une prison neuve ou de rénover la maison d'arrêt d'Angers, peut-être en l'étendant un peu, de 266 à quelques places, eh bien, on a vu arriver ce maxi-centre incroyable de 850 places, avec trois types d'accueil, maison d'arrêt pour hommes, maison d'arrêt pour femmes, et un centre de détention complémentaire, qui s'écarterait du centre d'Angers, qui est remarquablement accessible aujourd'hui par les familles, les proches, et qui s'écarterait à 20-30 minutes à l'extérieur du centre-ville, et avec une dimension qui dépasse de très très loin les besoins de notre agglomération. On est la 30e agglomération de France, et on nous propose une dimension d'établissement pénitentiaire qui correspond aux très grandes agglomérations françaises. Et du coup, on est en sidération.
Pourquoi ? Eh bien, est la politique derrière ça ?
Eh bien,
je complète ma question, puisqu'on est quand même aujourd'hui également au sein de la société en train de questionner l'intérêt de ces séjours en prison. On voit qu'on augmente le nombre de places dans une ville comme Angers, qui n'a pas besoin de tant de places que ça. Est-ce qu'il y a une démarche aussi à questionner autour de l'utilité de l'incarcération ?
Pleinement. Un vrai questionnement qui, d'ailleurs, est porté également par les politiques nationales. C'est-à-dire qu'on vit quelque part une certaine schizophrénie entre l'ensemble des politiques qui ont compris que l'incarcération forcée et inflationniste en place de prison ne résolvait non seulement rien, mais coûtait extrêmement cher, générait une récidive considérable et n'apportait pas la dignité que nous souhaitons. Autrement dit, la nécessité de repenser complètement le cadre des peines pour permettre, plutôt que d'investir très massivement sur de l'immobilier et de la création de places, ce maxi-centre est projeté à 130 millions d'euros, et bien plutôt que d'investir ces sommes pharaoniques, plutôt les investir en prévention et en réinsertion, dans le cadre aujourd'hui d'établissements que même le ministère de la Justice française étudie, dans un projet qui s'appelle le projet INSER, de centres pénitentiaires de 100 à 180 places, autrement dit beaucoup plus humains, avec du travail pour tous, parce qu'on réinsère par le travail, par la formation, par l'information.
Donc cet énorme centre va un peu à l'encontre de la politique générale en ce moment menée.
Totalement. Et on ne le comprend pas, on comprend très très bien, et on ne voudrait surtout pas perdre la possibilité de voir se rénover cette prison dont on parle depuis 2009. 5 gardes des Sceaux sont venus à Angers pour nous dire qu'il fallait la rénover, etc. Donc on ne voudrait surtout pas perdre cette rénovation, mais notre état de sidération vient du fait que de 266, on nous a proposé 850, donc c'est là où la disproportion est énorme.
Vous parliez tout à l'heure des très bonnes relations que vous aviez en ce moment avec le centre pénitentiaire d'Angers, cette maison d'arrêt. Vous parliez également de la concertation qu'il y avait eue à l'origine, à la genèse de cette association Olivier Girand en août 91. C'est ça, c'est bien ça, août 91.
Oui, tout à fait.
En août 91. Oui, oui. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez vous aviez été un peu tenu à l'écart de ces réflexions autour de cet énorme centre, de ce gros complexe pénitentiaire. Comment est-ce que vous le vivez, ça, vous aussi, d'être tenu à l'écart, alors que ça fait de si nombreuses années que vous êtes en bon terme avec le milieu carcéral angevin ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, le personnel de la maison d'arrêt d'Angers ne construit pas la politique carcérale française. Elle met en œuvre de manière remarquable les services qu'on lui demande, et au sein d'ailleurs d'une prison qui est, j'ai envie de dire, public par rapport à ces maxi-centres qui s'intègrent dans des partenariats publics-privés où, j'ai envie de dire, 4/5 des missions sont externalisées à des sociétés privées qui, elles, cherchent évidemment la rentabilité, des taux d'occupation pleins. Il y a des parallèles avec le monde de l'EHPAD, ça n'a rien à voir avec les populations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous fait beaucoup réfléchir.
Donc vous dites qu'on est en train de privatiser le milieu carcéral ?
Alors, on ne le
que ce serait la tendance, en tout cas.
On ne le privatise pas sur les missions, j'ai envie de dire, principales de l'incarcération, qui sont la surveillance et le suivi des peines. Et autrement dit, tout cet accompagnement, j'ai envie de dire, de peine, celui-là, bien sûr, il est maintenu dans l'administration pénitentiaire. Mais on voit dans tous ces maxi-centres être externalisé tout ce qui est restauration, maintenance du site, lingerie. Enfin, vous imaginez la dimension de services qui concourent à un maintien d'établissements de ce genre. De plus en plus, c'est externalisé avec des dérives qui sont très interpellantes.
Est-ce qu'il y a un parallèle, en tout cas, qui se fait instantanément dans nos esprits à tous, avec le milieu hospitalier ? Le milieu hospitalier, les services de nettoyage, d'hygiène, etc., ont tous été externalisés, ce qui a conduit à des problématiques, premièrement sociales, mais aussi sanitaires, au sein même de l'hôpital. Est-ce que ce sont des choses que vous aussi, vous redoutez ?
Alors, je viens du champ de la santé, où j'ai dirigé un hôpital et des services médico-sociaux, donc ça me parle évidemment très fort. Ce qu'il faut faire très attention, c'est à ne pas faire de radicalité. Certaines externalisations peuvent être positives. La question, c'est le risque, finalement, d'industrialiser, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tous les cas, il nous projette bien, d'industrialiser des établissements de fragilité. La fragilité dans la santé, la fragilité dans le grand âge, la fragilité dans le monde des peines de prison. Ces mondes-là ont des caractéristiques très singulières qui nécessitent d'avoir une dimension de réflexion humaine et humanisante bien plus importante que tout le reste. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se vivent. On a un paradoxe à la maison d'arrêt d'Angers d'ailleurs qui est très particulier, c'est qu'on a une prison qui est vétuste, qui est vieille, etc., mais pour autant qui reste entre guillemets humaine. Vous la basculez dans un maxi-centre hyper automatisé, avec des caméras de surveillance, avec de l'informatique très poussée, etc. Vous allez reculer le contact des hommes, des surveillants avec les détenus, et vous allez rendre beaucoup plus difficile pour les associations de venir en soutien. Et quelque part, on entre dans cette déshumanisation qui va créer de la récidive, qui va créer de la précarité, qui est tout ce cercle vicieux qu'on connaît très bien.
En tout cas, on entend votre retenue et vos réserves quant à ce nouveau projet. Merci beaucoup Arnaud Levoyer d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je le rappelle, ce sont les 30 ans de l'association Olivier Girand. Merci encore à vous.
Merci pour votre accueil.
Et c'est la fin de cet optimisme navré pour le petit problème technique. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Une très très bonne soirée à tout le monde sur les ondes du Centre FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Ce soir, retrouvez votre émission de sport, Ta Gueule Coubertin, sur Radio Campus Angers. Bonne soirée.